Bonjour, bienvenue à toutes et à tous autour de la grande table d'été. Aujourd'hui, on essaye de garder le sourire même si les temps sont moroses. Nos deux invités tentent de venir à bout de leurs angoisses et de nos incertitudes dans un film et dans un livre. La première sort son premier long métrage où elle tourne autour de Blanche Gardin, éco-anxieuse, partie soigner sa dépression et un échec professionnel à Lisbonne. La deuxième publie son premier roman aux éditions de Minuit. Sa narratrice travaille dans un fameux fast-food, activité qui isole, vide, aliène, plus qu'il ne rassemble et contredit le slogan qui accompagne le grand M jaune de cette enseigne « Venez comme vous êtes ».
France Culture, la grande table d'été, Sébastien Thème.
Bonjour Céline Deveau.
Bonjour.
Vous sortez votre premier long métrage, Tout le monde aime Jeanne, présenté à la Semaine de la Critique lors du dernier Festival de Cannes, film qui sera en salle mercredi prochain avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte et Maxence Tual, entre autres. Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Claire Baglin, vous publiez aux éditions de Minuit votre premier roman titré En salle. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ben merci d'être là à toutes les deux. Je citais le slogan de la chaîne de fast-food qu'on connaît tous. Je ne sais pas si on donnera son titre, mais peut-être plus tard. Tiens. Et que vous décrivez dans votre livre, Claire Baglin, « Venez comme vous êtes », est-ce qu'il est vraiment de bon ton de venir comme on est ? Au travail ou même dans la vie en général ? Est-ce que le monde nous accepte comme nous sommes ? Céline Deveau.
Je pense qu'on essaye justement de cacher le plus possible qui on est. Mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée finalement.
Dans ce roman, en tout cas, le fast-food comme il est présenté n'est pas dans une, enfin, en tout cas, tout ça n'est pas dans une optique d'insertion ou de quoi que ce soit. Et souvent, d'ailleurs, c'est un lieu de passage, autant pour les clients que pour les personnes qui y travaillent. D'ailleurs, en tout cas pour.
Il faut se conformer quand on travaille chez McDo, puisque.
Comme dans la plupart des travails, je pense qu'il y a toujours une période d'insertion ou même de formation. Et forcément, il y a toute une série de codes, de consignes et de règles à appliquer. Et c'est un peu ça, en tout cas, qui commence le roman, c'est-à-dire apprendre des gestes de travail, des façons de travailler aussi, et apprendre aussi un fonctionnement et une hiérarchie particulière qui n'est pas toujours présente dans tous.
Céline Deveau, dans votre film, il y a la question de la dépression. Est-ce qu'une dépression, il faut en parler autour de soi ?
Bah justement, l'idée du personnage de Jean dans le film, donc l'acolyte de Jeanne,
ouais. Jean et Jeanne.
Il en parle avec beaucoup, beaucoup de fraîcheur, si c'est le mot, je sais pas, mais en tout cas une désinvolture assez étonnante. Et c'est ce que je voulais, parce que je trouve que dans la vie, les gens qui parlent de ça font un peu peur aux autres. Et je trouvais ça intéressant que lui n'en ait strictement rien à faire de dire oui, bah oui, la maladie mentale, je connais très bien.
Au fond, tout le monde va mal, je crois.
Oui, c'est ça, à différents degrés, mais.
Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de votre film, Céline Deveau. Tout le monde aime Jeanne. Pourtant, Jeanne, elle n'est pas bien, mais alors pas bien du tout. Écoutez.
Tu es une femme extraordinaire, Jeanne.
Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année ?
Mais t'es la femme du siècle, ouais !
C'est beaucoup.
Menteuse !
Il lui est arrivé quoi déjà à la femme de l'année ?
Vous êtes à un poil de la faillite personnelle.
Notre mère est décédée.
Elle vous a laissé des biens.
Un appartement à Lisbonne.
Moi, je vous dirais de vendre cet appartement.
Ouah, la tronche ! Ça se trouve, tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. Ah ! À tous les coups, il va venir te voir. Bip, 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 bip.
Jeanne ?
On se connaît ?
Bah oui, tu te souviens pas ?
Ah.
Aucun souvenir.
En tout cas, t'es pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que t'allais mourir jeune. Donc je suis très content de voir que t'es en vie.
Ouais, Jean, c'est Jeanne.
Elles sont en or, on ne sait jamais.
Faut que j'y aille, moi j'ai rendez-vous avec un agent immobilier.
Ah, tu vends ton appart ? Pourquoi tu vends ?
Je suis surendettée.
Ah, félicitations. Ah. T'es un peu toc-toc, hein, Jeanne Meyer.
Non.
Un peu frappadingo ? J'aime bien.
Non, mais pas du tout. Nanana, nanana.
Moi je t'aime. Où est-ce qu'il y a un
Il dit que c'est interdit de fumer.
Ah oui, je sais, monsieur, merci. C'est une cigarette électronique, elle ne brûle pas, tout va bien.
C'était la bande annonce de votre film, Céline Deveau. Tout le monde aime Jeanne, en salle mercredi prochain. Qu'est-ce qui lui arrive à Jeanne ?
Alors Jeanne, c'est une championne contemporaine qui a le métier rêvé d'aujourd'hui. Donc elle a créé une fondation qui s'occupe en fait de sauver les océans. donc de récupérer le plastique, et elle rate grotesquement l'inauguration de son de sa machine. Et donc à partir de là, elle se retrouve sans argent, sans futur, hein, je pense, pour quelqu'un qui a toujours tout réussi. Et elle doit aller.
Qui cherche à réparer le futur, par ailleurs.
Qui cherche à réparer le futur et qui est dans une position morale très forte, en fait. Parce qu'elle se place là où on attend l'autre, où on aimerait que quelqu'un soit, on invite quelqu'un nous sauve. Et comme elle rate tout, bah, il faut qu'elle aille à Lisbonne vendre un appartement familial. J'ai la voix qui tremblote. C'est...
Ah bon? Non, vous avez une belle voix, vous avez la voix grave. D'ailleurs, c'est votre voix qu'on entend dans le film, on va y revenir. Elle a vécu ouais, une déconvenue amoureuse et professionnelle. Pas amoureuse, pardon, mais professionnelle.
Ouais,
et, professionnelle. Ça a son importance dans le film, pardon.
Bah, en fait, c'est-à-dire qu'elle a surtout plus un sou, quoi. Donc ça explique tout, c'est, ça explique son départ à Lisbonne et le fait qu'elle doive vendre cet appartement. Et sur le chemin, elle va rencontrer Jean, qui est donc Laurent Lafitte, et qui est un ancien camarade de lycée dont elle se souvient absolument pas et qui va un peu lui coller au basque pendant tout le film.
Et qui lui est très particulier aussi. Claire Baglin, est-ce que votre personnage, votre narratrice, elle va bien? Non, en salle.
C'est une grande question, assez vaste. En tout cas, moi, ce que j'entends dans la bande-annonce, cette petite voix, justement, assez d'enfant, j'aurais pas soupçonné que c'était la vôtre, mais en tout cas, c'est très drôle. Mais c'est ces voix-là aussi qui sont, je pense, présentes dans ce roman, puisqu'on a à la fois donc, une action qui se déroule et des gestes de travail répétés, à côté de ceux des enfants, d'ailleurs, qui jouent au travail de leurs parents. Et c'est ces paroles-là, en fait, qui viennent se chevaucher avec les actions qui se passent. C'est les voix des managers, c'est les voix des personnes qui sont responsables, mais aussi celles des équipiers, des collègues entre eux, et puis des parents aussi.
C'est une de vous parler de dépression pour un premier film, c'était pas un pari trop risqué? Même si la question de la santé mentale est quand même de plus en plus présente, et notamment après le Covid, pourquoi avoir voulu l'évoquer dans ce film?
Ben, je pense que justement parce que c'est très courant et que finalement on en parle avec pas mal de difficultés, j'avais envie d'en parler. Et puis surtout, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens dépressifs ou qui ont souffert de dépression ont une capacité humoristique très violente. Parce qu'ils sont autodestructeurs en fait, donc ils peuvent se permettre de se moquer d'eux-mêmes avec une indécence assez forte. Et du coup, l'humour et la dépression sont quand même liés, même voilà, dans le cinéma, dans la littérature et tout. Et je voulais vraiment faire une comédie de la dépression, que ce soit. C'est comme quand il nous arrive un truc hyper humiliant, c'est toujours l'anecdote la plus drôle à raconter, quoi. C'est un peu le même syndrome.
C'est intéressant d'avoir choisi Blanche Gardin, qui a fait une série pour Canal+, où justement elle mettait en scène ça, à la fois la dépréciation d'elle-même et jusqu'à la folie, d'ailleurs.
Bah, on avait ça en commun au départ, des sujets en commun, et puis j'admirais énormément la virtuosité avec laquelle elle arrivait à parler de certains sujets, tout en. Bah, en les rendant extrêmement drôles, mais surtout extrêmement sincères.
Mais là, elle n'est pas drôle dans le film, finalement. C'est Laurent Lafitte qui porte tout l'aspect comique, et elle est dans quelque chose de très sérieux et presque premier degré. Elle qui peut être souvent sur plusieurs degrés.
Bah, c'est vraiment le premier rôle, donc elle est de tous les plans, et il lui arrive des choses terribles. Et du coup, Blanche Gardin a apporté à ce rôle une immense sobriété, que je trouve admirable. Et effectivement, l'idée, c'était pas qu'elle soit là pour sauver le personnage de ses problèmes. C'était qu'elle l'incarne et elle le fait très bien.
Et comment vous représentez la dépression? Il y a un petit personnage qui apparaît sous la forme d'animation. C'est une sorte de cousin machin de la famille Adams, mais avec des longs cheveux, des longs poils, je sais pas. Mais lui, il parle. Il fait pas des petits bruits.
Ouais, il parle.
Pourquoi avoir imaginé ce personnage?
Bah en fait, le film au départ, c'était pas seulement sur la dépression, c'était surtout sur la honte en fait. Sur le fait que c'est difficile de vivre un moment avec une unité de pensée. Enfin, par exemple, moi actuellement, le nombre de pensées toxiques qui m'assaillent là,
maintenant,
au moment
là
où je vous parle, sont vraiment assez
nombreuses.
Moi j'en
ai zéro. Là maintenant, zéro.
Et en fait, je voulais rendre visuelle cette sensation-là d'être un peu démultipliée quand on vit quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah, si je dois représenter la honte, en sachant que, bon, moi, j'ai les cheveux longs, que je ne me tiens pas toujours très bien. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, une sorte de perruque un peu honteuse, comme ça, les cheveux dans la gueule, bah, c'est le truc qui m'est venu. C'est comme ça que je l'ai représenté.
Claire Baglin, je vous propose qu'on écoute une lecture d'un extrait de votre livre En salle, qui paraît aux éditions de Minuit.
Ce midi, un roulement. Je suis frite. Les autres me disent bon courage et la formatrice réapparaît. C'est reparti. 4h30 à faire, j'enfile le tablier de plastique. J'y suis. Ils me donnent les consignes. Au son strident et lent, il faut secouer les panières, à ce court et pressant, sortir les frites de l'huile. D'autres sonneries retentissent, mais ils disent « c'est rien ça, tu n'as qu'à appuyer ». Je jette un coup d'œil à l'écran des commandes, juste au-dessus de ma tête. Je ne lis pas, je vois bien qu'il y en a trop. J'appuie sur le bouton. Des rectangles surgelés tombent dans la panière. Je la saisis, mon poignet ploie, je la plonge et le minuteur commence le décompte. Les équipiers derrière moi disent « augmente ta prod là, fais ta prod, allez ». L'appel à frites dans la main, je remplis les cornets, racle les bacs. Mais les alarmes m'arrêtent. Je lâche tout, réponds à l'appel.
C'était une lecture de votre roman En salle, publié aux éditions de Minuit et lu par Jeanne Dassas.
C'est très drôle que vous ayez choisi cette lecture, puisqu'en fait c'est un des premiers textes en tout cas qui est sort, enfin que j'ai écrit pour ce roman. C'est par cet endroit-là en fait que j'ai commencé.
C'est la première chose que vous avez écrite.
Exactement. En fait, c'était au départ en tout cas une intention qui n'était pas du tout du côté du fast-food, puisque même si j'avais travaillé, en tout cas il n'y avait pas une intention de dénoncer ou d'avoir un message là-dessus. Et je pense que c'est toujours pas d'ailleurs le cas. Mais par contre, c'est vrai que en arrivant en fait à ma rentrée scolaire avec une demande d'un texte sur le son, moi j'entendais que celui de travail que je venais de passer pendant plusieurs mois et c'est celui des friteuses justement et de l'appel et des multiples appels d'ailleurs parce qu'en fait c'est des sons qui sont signifiants, du moins qui portent des messages chacun. Il y a le message de secoue la panière, il y a le message de relève la panière. Et puis ceux aussi des commandes internet bien sûr derrière, enfin c'est aussi tout ça
avec des boutons, oui il faut appuyer sur des boutons
avec des boutons, avec des choses à relever assez lourdes, des endroits enfin en fait c'était toute la question du geste pour moi en tout cas dans tout ça, c'est vraiment le geste et puis la parole autour, enfin c'est intéressant ce que vous disiez justement sur la parole double et celle qui est au-dessus de nous en quelque sorte. Je trouvais qu'il y avait une parole dans mon dos autant, enfin
il y en a une,
il y en a une effectivement, oui. Il y a d'ailleurs même oui, c'est vraiment celle des responsables pour le coup qui passe.
Des managers.
Et quand on est au frites, d'ailleurs, on est vraiment face à la machine. Et il y a ce truc-là, en tout cas, face en fait à ce qu'on fait et dos à tout, puisqu'en fait, c'est un des rares postes où vraiment on est face à face avec précisément avec ce qu'on fait dans le fast-food, en tout cas.
Et le mieux, ce serait d'être en salle.
Et le mieux, ce serait pas d'être en salle, puisque le poste des frites, c'est ce qu'on appellerait la planque. Mais en salle, c'est le poste, on va dire, rejeté. Je pense qu'il y en a dans tous les travaux. Il y a toujours un endroit où on n'a pas envie d'y aller, auquel on est affecté quand il se passe quelque chose, où on n'a pas envie d'être affecté. Et c'est un peu le poste redouté. Et en fait, la salle, c'est vraiment le contact frontal avec les clients, avec une grande difficulté et aussi un certain ennui, puisqu'il y a la rapidité du service qui est tout de suite suivie par justement un énorme vide. Et peut-être que c'est là où la deuxième voie du coup de ce roman apparaît, puisque c'est là où le souvenir, en fait, surtout, peut se déployer et où il y a d'autres choses qui se tissent, à mon sens.
Comment vous êtes venue à l'écriture, Claire Berglin ? Vous parliez du geste. Le geste d'écrire, il vous vient d'où ?
Le geste d'écrire, je ne sais pas exactement. Alors, je pense qu'on pourrait toujours remonter et dire que ça venait de l'enfance, que c'était un enfant qui lisait énormément. Je ne sais pas, je pense que moi, de toute façon, il y a eu des évolutions de désir. Il y a eu une écriture, certes, mais en fait, peut-être que j'ai l'impression que ça part déjà d'une graphie. Je sais que moi, j'aimais tracer. Je me souviens que j'avais écrit un roman enfant, bon, peu importe. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'écrivais pourvu qu'on me donne des lignes à copier, pourvu que je puisse tracer, en fait, juste tracer des boucles. Enfin, il y avait ça, peut-être. Après, c'est toujours des évolutions et de désir. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même que j'avais enfant que celui qui est maintenant et celui qui porte maintenant.
Mais il y avait déjà le geste et la répétition aussi.
Et celui de la répétition, effectivement.
Et écrire, c'est se répéter, écrire ?
Écrire, je ne sais pas exactement si c'est se répéter, mais en tout cas, pour moi, c'était une façon aussi de faire quelque chose de l'ensemble, en fait, d'une matière, une matière de souvenir, une matière de travail. Et c'est vrai que c'est aussi, d'une certaine façon, je ne dirais pas réparer, parce que ce n'est pas vraiment réparer pour moi, mais je dirais peut-être que ça finit quelque chose, dans le sens où le travail est complètement inachevé dans ce fast-food. Enfin, il y a quelque chose, de toute façon, qui ne sera jamais terminé. Et le roman, il termine quelque chose, il termine la salle, en fait.
Le sujet du livre, c'est donc le fast-food, vous le disiez. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'un documentaire à voir sur France TV/ Mon boulot chez McDo de Tom Cariou. Écoutez.
Bonjour.
Ça va?
Bonjour.
C'est mon premier jour.
Du coup, si je me trompe pas...
Tom.
Tom? Ok, enchanté. Je connais les recettes déjà un peu.
Pas trop, pas tout.
Bon, ok, vas-y, commence par un alors déjà. Donc, sauce. Ensuite, là, au Mac, on est quoi? Après la sauce, on a mis les oignons.
Ok. Et
ensuite, c'est à peu près la même chose. C'est quoi? Cornichon. Et deux
trucs. J'ai brûlé le pas mal avec le...
Comment t'as fait?
Avec le steak.
T'avais bien mis à l'eau froide ce jour-là?
Ouais, mais pas assez, je pense.
Ouais, il faut vraiment laisser parce qu'en fait la brûlure elle continue. En fait, ça continue de brûler à l'intérieur.
Ouais. Mais du coup, je pense que c'est pas mal si je mets un gant.
Bien sûr, ouais.
Après deux semaines dans les cuisines de mon restaurant, j'ai l'impression de devenir un robot. Une machine à fabriquer et servir des repas. Ce travail à la chaîne ne tolère pas la moindre interruption.
De l'eau. Excusez-moi, en fait là on est en plein service. Vous voulez pouvoir vous buvez rapidement et après vous passez
très bien. Vous mettez très
tournant, s'il vous plaît.
Là-bas.
Là vous finissez le service. Ouais. Je sais que c'est dur, il fait chaud, mais là on a besoin de travailler.
C'est un extrait du documentaire de Tom Cariou, Mon boulot chez McDo, à voir sur le site France.tv. Est-ce que vos expériences concordent, Claire Baglin?
Vous voulez dire l'expérience réelle ou l'expérience du texte?
Exactement.
Dans le texte, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était aussi ce tissage. C'est vrai que l'expérience en tant que telle de McDo, pour moi, c'est maintenant un peu une succession d'anecdotes. Je pense que ce livre aussi, au départ, avait ces anecdotes comme matière première. Et ensuite, il y a eu le tissage qui est venu se superposer et former quelque chose un petit peu, peut-être un petit peu composite. En tout cas, effectivement, le fast-food, c'est ce que c'est. Et puis, ce qui m'interpelle, c'est que c'est un travail qu'on voit beaucoup, dans le sens où tout est découvert dans les tâches qui sont effectuées au sein du fast-food. Donc, en fait, je trouve ça un peu drôle, d'ailleurs, de parler de révélation. Il y a toute une série de conditions de travail, bien sûr, qui gagnent encore à être mises en avant. Mais dans ce roman, c'est vrai que c'est le tissage et puis bien sûr l'usine du père aussi. L'usine du père qui est assez centrale et qui pour le coup vient vraiment se poser comme une nouvelle figure, une nouvelle personne et sur laquelle on se retourne en fait et à laquelle on revient. Comme le fast-food serait une genre de nouveau en fait.
De nouvelle usine.
De nouvelle. Je sais pas si je pourrais dire une nouvelle usine. Je pense que c'est quand même des lieux un peu différents. Mais par contre, c'est comment ? C'est pas la suite non plus, mais pour moi c'était le seul angle possible. Au départ en tout cas, le désir il était du côté du travail de mon père, donc dans une usine de maintenance automobile, enfin en tout cas voilà. Et c'était un peu par quel biais on prend ça, et moi après l'avoir enregistré des heures et des heures à parler de ça justement, de son expérience de travail, il y a quelque chose qui est revenu, c'est que je serais incapable d'écrire là-dessus. Sans l'avoir connu, sans l'avoir vu, il y a toute une série de choses que auxquelles je n'aurais jamais accès. Et le fast-food, c'était une approche en fait de ces souvenirs-là. Et finalement, c'est pour ça que la narratrice, en quelque sorte, a rétréci, puisqu'au départ, c'était moi qui enregistrais un père, et ensuite c'est devenu une petite fille qui regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et pour la petite fille, en tout cas, oui, c'est vrai que le petit fantôme du film Tout le monde aime Jeanne, c'est moi me fait un peu écho.
McDo, c'est le premier recruteur de France, et notamment auprès de la jeunesse. Vous avez fait beaucoup de petits boulots, de ce qu'on appelle des boulots alimentaires, peut-être on pourrait dire. Est-ce que ça vous a permis de vous approcher de l'écriture, de l'apprentissage de l'écriture ?
Je pense que ma pratique était déjà un peu là, avant en tout cas le fast-food, bien sûr, mais je pense que c'est aussi le fait qu'elle soit précédente qui m'a permis d'avoir justement peut-être cette distance, ou du moins cette observation, puisque la narratrice, ça reste quand même quelque chose d'un peu singulier. C'est que c'est une expérience déjà finie, avant même, quand elle commence, elle est finie, puisque elle sait qu'elle partira. contrairement à d'autres personnes qui travaillent et qui n'ont pas d'idée en fait de quand ça se terminera. Et déjà le savoir à quel moment on part, c'est déjà quelque chose qui modifie complètement la perception du travail qu'on fait. La narratrice, je pense qu'elle est aussi empreinte de ça, c'est-à-dire que les choses arrivent, mais les choses seront bientôt finies. Et elle a déjà aussi une vie de pensée, en fait, une vie de la pensée vraiment qui se déroule et qui, elle, fera son chemin, quoi qu'il arrive.
McDo, premier recruteur de France, mais aussi premier pollueur de France, le roi de la restauration rapide, a vu ses déchets croître et son taux de recyclage baisser. Une chaîne de resto pas très écolo. L'écologie, c'est un thème qui est dans votre film, Céline Deveau. Est-ce que c'est aussi ça qui précipite votre personnage, Jeanne, dans la dépression? Est-ce que l'effondrement du monde peut provoquer un effondrement intérieur?
J'imagine que je suis certainement pas la première à le dire, comme c'est un... je trouve ça assez bizarre. En fait, la dépression n'a pas besoin de sujet. C'est ça, oui. Justement, c'est pour ça que c'est difficile. Sinon, on pourrait guérir plus facilement si on savait d'où ça venait. Mais après, il y a effectivement le truc contemporain, un truc très contemporain qui est au-delà de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Je trouve que c'est un peu une angoisse de l'information. C'est-à-dire que on est éco-anxieux parce qu'on a l'impression de tout savoir sur ce qui se passe. Et parce qu'on a, on a tellement de moyens d'information, au fond, on se sent contenté dans notre curiosité et on est inversement proportionnellement puissant ou pas. Donc le niveau d'information est inversement proportionnel au niveau de réaction possible, quoi. Ça, je trouve ça très très dur. Je pense que c'est un peu d'ailleurs un truc, ce serait presque une dépression en soi, c'est se lever, savoir que tout est de la merde et ne rien pouvoir faire, c'est à peu près ça.
Ouais. Et on se recouche du coup.
Exactement.
Céline Deveau, vous évoquez un film qui parle de la dépression, un film que vous aimez beaucoup, c'est On connaît la chanson d'Alain Resnais, La dépression en chanson. Comment il traite la dépression, Alain Resnais, et notamment dans ce film On connaît la chanson?
On connaît la chanson, pour tout le monde c'est un chef-d'œuvre, mais en fait ce qui est sublime dans ce film, c'est que on traite la dépression par la beauté, donc par la musique pop, par le vrai plaisir, par des joies extrêmement pures, qui sont les joies de la chanson populaire, quoi. Et d'ailleurs, c'était un film que j'ai énormément regardé enfant et que j'adorais. Je trouvais ça super drôle. Il y a plein de chansons, c'était super. Et puis j'ai compris années plus tard que, en fait, ça me parlait peut-être un peu plus que. je trouve que c'est un très bon exemple parce que finalement, c'est aussi avoir la générosité envers son public de se dire, je vais parler de quelque chose de très dur, mais je vais le rendre plus doux. Pour qu'on puisse le partager, au lieu de t'imposer ma version personnelle, quoi.
On va écouter Alain Resnais au micro de Michel Simon dans son émission Projection Privée, c'était sur France Culture, en 2009.
J'ai scandalisé un jour l'ingénieur du son en lui disant « On peut imaginer un film sans image, mais on ne peut pas imaginer un film sans le son. » Et les films muets, ça n'a jamais été projeté sans une musique qui les accompagnait. Ça n'a jamais été fait dans le silence. Donc, et il m'a dit, mais c'est pas possible et tout. Enfin, il a cru que je blaguais. D'ailleurs, je blaguais, mais je choisis mes distributions de comédiens. Je dirais pas plus pour leur aspect physique que pour leur voix. Mais enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre d'un phrasé, d'un timbre de voix particulier sur un écran. Et je m'amuse toujours à dire, si le film est bon, on doit pouvoir l'écouter à la radio sans envoyer l'image, quoi. Et il y a une phrase de Welles, d'ailleurs, que j'aime bien, qui dit « La radio, c'est beaucoup mieux que le cinéma, parce que l'écran est beaucoup plus grand. »
C'était la voix d'Alain Resnais au micro de Michel Simon dans son émission Projection Privée en 2009. Une réaction, Céline Deveau.
Je suis entièrement d'accord avec Alain Resnais. Non, je trouve que, en fait, c'est assez beau parce que ça implique que c'est l'histoire qui prime. Qu'en fait, le cinéma vient de l'envie de raconter une histoire et que l'histoire, elle est orale au final. Moi, après, mes influences, par exemple, sont très souvent beaucoup plus littéraires que cinématographiques.
Comme ?
Virginia Woolf, par exemple.
Une chambre à soi.
Une chambre à soi, mais surtout Mrs. Dalloway, okay. Que je trouve être un roman très cinématographique, parce que comme il y a le stream of consciousness qui nous donne l'impression de pouvoir naviguer du présent au passé, d'une émotion à une autre, très contradictoire. En fait, on voyage vraiment comme dans un film, quoi. Il y a un truc très fort. Et aussi des romans chorales, des romans qui permettent la violence intérieure, qui permettent à la violence intérieure de s'exprimer, comme les romans de Jonathan Franzen, par exemple, ou Philippe Roth. Ou...
C'est vrai que là, le présent et le passé, pour le coup, sur le même plan, on va dire, et toujours, autant dans les gestes que dans les voix, les genres de vestiges un peu de pourquoi on dit tel et tel mot, d'où ça vient ce mot-là, rien que en fait ce jeu de la marchande et des enfants qui jouent à la marchande, ce truc de dire mais pourquoi on dit avec ceci et pourquoi on dit voilà pour vous et voilà, et ce je vous écoute.
Il lui faut quoi?
je sais pas exactement,
mais c'est
vrai que le je vous écoute qui revient souvent aussi au casque du fast-food. On commençait une commande, hein. Je vous écoute. Et c'est quelque chose qui revient, c'est vrai. Je vous écoute autant aux clients que à tout ce qui reste de l'enfance, en tout cas.
On n'a pas évoqué vos références littéraires. Je crois qu'il y a Georges Perec, Claire Maglin.
Oui, effectivement. Pourquoi ? Il y a eu toute une série de références, en tout cas, de livres vers lesquels je me suis tournée. Parce que j'ai eu la chance aussi d'être libraire pendant l'écriture. Et ça a vraiment. Et effectivement, Georges Perec, alors, bien évidemment, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu W, le Seigneur d'enfance, qui a infusé complètement. Et je m'en suis rendu compte après avoir écrit ce texte, qui est quand même dans un double, en fait, passé-présent.
Double récit.
Mais c'est vrai que double récit, exactement. Et Georges Perec, donc, a été important. Il y en a eu beaucoup d'autres. Après, il y a eu aussi pas mal d'auteurs, en fait, de la littérature prolétarienne, en tout cas, dans les débuts, en fait, dans mes premières lectures. Il y a eu, bien sûr, le poète Thierry Metz. Il y a eu Leslie Kaplan avec Dexélusine. Et puis d'autres textes qui sont, voilà, Robert Linhart avec L'Établi, Henri Calais, La Belle Lurette, Cala Ferté avec Le Requiem des Innocents. Et puis d'autres auteurs un peu plus contemporains, en tout cas. Je sais que j'ai été pas mal aussi touchée par le travail de Nathalie Léger sur la superposition et sur le traitement d'une information, sur son supplément La vie de Barbara Loden, sur comment on confronte, en fait, plusieurs sources. Et ça m'intéressait beaucoup, c'est vrai. Et puis, en fait, le roman s'est fait aussi avec ces références-là, vraiment. Et mes lectures ont évolué à mesure que l'écriture progressait, puisque je suis vraiment partie avec un biais sur l'usine, sur la classe ouvrière. Ouais. Et en fait, à mesure que j'avançais, j'avais plus du tout envie de faire un récit de trajectoire, plus du tout envie de faire un récit, par exemple, politique. Moi, je sais plus du tout, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, cette narratrice ne veut, elle n'est pas dans une forme de dénonciation, de révélation. C'est plutôt quelque chose un peu de... je sais pas trop comment dire, j'ai un son que ça traverse un peu aussi le souvenir, quelque chose d'une grande lassitude, en fait, vis-à-vis de ce qui arrive.
Et une conversation avec elle-même aussi, non ?
Oui, tout à fait, effectivement. Et dans le regard, en fait, dans qu'est-ce qu'on regarde, vers quoi on se tourne, effectivement, quelque chose qui vient se tisser et qui vient se superposer à ce qui est vu, ouais. Comme un genre de sous-texte, en fait.
L'importance de la voix et de la musique dans vos films, Céline Deveau et de taille. On retrouve d'ailleurs dans ce nouveau film Tout le monde aime Jeanne, Flavien Berger, le musicien Flavien Berger, qui signe la bande-son de ce film, des précédents. Quand est-ce que a commencé cette collaboration ?
Quand on était étudiant, à l'époque, Flavien Berger était en école de design à l'ANSSI et moi j'étais aux arts décoratifs. Et on est devenus amis et il s'est chargé de faire la musique d'à peu près tous mes projets, y compris les plus nazes, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, ce qui est très gracieux de sa part. Et on a une collaboration assez extraordinaire, parce que en fait, on aime beaucoup les sons de la vie, donc on les collectionne dans nos téléphones, on se les fait écouter, ils sont placés
c'est
dans
quoi
les
musiques. Les sons de la vie.
Bah par exemple, un jour, Flavien est arrivé avec son téléphone, il me dit « tu vas jamais reconnaître ce son ». Et il me fait écouter une toute petite mélodie électronique, minuscule. Et je lui dis, je sais exactement ce que c'est une porte d'ascenseur. Et en fait, c'est le son que fait la porte d'ascenseur quand elle s'ouvre dans certains immeubles parisiens. Et c'était la porte de l'ascenseur dans lequel je roulais des pelles à mon premier amour. Donc elle s'ouvrait et se fermait beaucoup parce qu'on pouvait pas entrer dans l'appartement.
Flavien Berger, c'est l'auteur d'une pop délicieuse sur laquelle on peut rouler des pelles. On va écouter justement un de ses titres, Gravité.
Oh chérie, tu sais, que l'amour inverse la gravité. Oh, tu sais que je vais t'embrasser.
C'était Gravité de Flavien Berger, issu de son album Léviathan. Vous partagez hors antenne, Céline Deveau.
Oui, que c'était
une anecdote sur cette chanson.
En fait, Flavien, quand je commence un film, il me donne des heures et des heures de musique. Donc des sortes de ce qu'il appelle des tapes. Et donc, comme je dessine pendant très très longtemps, j'écoute des heures de musique faites par Flavien pour moi, quoi. Et pour lui, hein, mais... Et donc parfois je repère des trucs que j'aime et je lui dis ah ça je l'aime beaucoup, on pourrait le mettre dans le film, et voilà. Et souvent il y a eu des sortes d'échanges où en fait une chanson que j'avais choisie pour le film devenait une chanson qu'il développait pour son album d'après. Et donc Gravité qu'on a écouté là a été une chanson qui était un peu baragouinée en anglais dans un coin et que j'adorais, et finalement c'est devenu la chanson Gravité en français.
C'est grâce à vous qu'on peut danser.
J'ai fait le clip après.
qu'on peut danser sur du Flavien Berger.
c'est
trop d'honneur.
Voilà.
quel rapport vous avez avec la musique, vous, Claire Baglin?
Assez présente aussi du côté de mon père qui est un bon musicien qui joue beaucoup de piano, qui a toujours beaucoup de musique à la maison. Enfin d'abord du synthé, ensuite plus de piano. Et c'est vrai que ouais, même la question du son, mais aussi de l'enregistrement, je sais que ouais, pendant la phase d'écriture, en tout cas, c'était les enregistrements de mon père. Je l'écoutais parler pendant toute la période d'écriture. Et en fait c'était trop compliqué de reprendre ça comme matière tellement brute, en fait, impossible. Je me rappelle d'un enregistrement où il essayait de tuer une mouche pendant 20 minutes, et il n'arrivait pas, il disait mais c'est pas possible, je sais pas d'où elles viennent, il doit y avoir de la bouffe quelque part. Et en fait, je voulais poser une question, et pendant 20 minutes, en fait, j'entendais un mouchoir ou un torchon taper.
Les bruits de la vie.
Les fameux sons du quotidien.
Ouais, c'est difficile d'écrire ça.
J'avais essayé de faire une restitution de torchons tapés contre une vitre. Puis je me suis dit, bon, faut peut-être faire autre chose. C'est par un autre angle.
Qu'est-ce que ça a créé avec votre père? Est-ce que ça a transformé la relation que vous aviez?
Je sais pas, je pense que de toute façon, en fait, c'est surtout que mon père parle beaucoup de son enfance. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a fini par se retrouver dans ce roman. C'est qu'en fait, il a des souvenirs très précis de la couleur, des murs, de comment était le gravier dans sa cour de maternelle. Il a vraiment des choses comme ça. Et en fait, je pense que c'est ça, en fait, l'enfance, en tout cas, qui est dans ce roman. C'est pas seulement celle d'une narratrice, c'est aussi celle, en fait, de son père, finalement. Puisque c'est pas seulement cet enfant-là, c'est aussi l'enfant qu'il était lui. Et d'ailleurs, il a un souvenir qui est présent, qui revient, qui vient enrichir en fait un petit peu. Et ouais, je suis toujours assez impressionnée de voir à quel point il a des sensations très très nettes. Il connaît le nom de ses professeurs, tous ses professeurs, et puis ses couleurs, surtout moi, c'est les couleurs qui me marquent. Il me dit toujours les couleurs des années 80, de la fin des années 70, très, très orange, il me dit très moche, très moche.
Céline Deveau, on évoquait Flavien Berger, qui réalise la bande-son de vos films et de votre premier court-métrage, Le Repas Dominical, c'est pas votre premier court-métrage, Le Repas Dominical.
C'est le deuxième.
Le deuxième. Avec la voix de l'acteur et réalisateur Vincent Macaigne, César du meilleur court-métrage d'animation en 2016. On écoute un extrait.
C'est une fois assis que les ennuis commencent. Et Jean le sait bien, les fesses soudées à la chaise, les coudes sur la nappe, tandis qu'on lui pose des questions d'usage et comment vont les études. C'est toujours bien dans son appartement de merde.
C'est toujours bien dans son appartement.
Et on parle des loyers qui augmentaient. Il y a mon époque, c'était une autre histoire.
Les loyers, non.
Et de la crise économique. Et des journalistes qui sont une bande de bon à rien. Et de la génération sacrifiée. Et qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. À part à essayer d'être politiquement correct.
Quand c'était une autre histoire, la crise économique.
Puis son père, ou peut-être sa mère, ou peut-être tous en même temps, il lui demande tu es toujours avec ton ami? Non, c'est pas clair. Alors il passe derrière l'épaule de sa mère et lui dit en riant un peu, tu sais maman, tu peux dire mon copain, ça va pas t'arracher le cul.
C'était un extrait du Repas Dominical de Céline Deveau, César du meilleur court-métrage d'animation en 2016, avec la voix de Vincent Macaigne. Les repas en famille, ça a l'air d'être... C'est coton.
Une joie.
Ouais, une joie, une souffrance. C'est justement ça qui vous rassemble toutes les deux, la question du repas. Le repas chez McDo pendant l'enfance, c'est quelque chose qu'on peut attendre quand on est enfant. Là, les repas du dimanche en famille, un peu plombant, un peu intense.
Bah,
trop en fait, intense.
En fait, ce que je trouve marrant, c'est que ça devient... C'est le fait que l'occasion arrive. Quand on est en famille, il n'y a pas d'occasion, on est tout le temps ensemble, donc on ne se pose pas de questions. Et puis soudainement, il y a une occasion. Donc là, chacun reprend ou trouve ou s'invente un rôle désormais pour coexister. Et surtout, revient chargé de toute sa semaine, voire même plusieurs
son
mois.
Son année, parfois, si on se retrouve juste à Noël.
Exactement. Et après avoir être devenu quelqu'un, quoi. Ah, ça y est, maintenant j'ai des amis, maintenant j'ai des opinions politiques, maintenant j'ai un métier. En fait, maintenant j'existe. Donc tout ça va se heurter. Et je trouve ça, en fait, très beau de voir que on continue, on peut, hein, parfois on n'y arrive pas du tout, mais on peut continuer à s'aimer malgré ça. Et ça n'arrive pas vraiment dans la vie. Les amis, on les quitte. La famille, c'est un petit peu plus compliqué.
C'est vrai que sur les fêtes de famille aussi, je sais que c'était quelque chose où j'ai beaucoup essayé de creuser, en tout cas, essayer de faire en fait la scène type de ce repas, de cette fameuse, ce que vous dites, occasion, qui est la fête. On va faire la fête, on va louer une salle, on va installer des nappes en papier avec du scotch en dessous et imprimer, voilà. Et en fait, ça, c'était aussi compliqué parce qu'il y a tout le stéréotype aussi qui forcément s'impose dans ce genre de scène, puisqu'il y a toujours... Qu'est-ce qu'on écrit exactement? Est-ce qu'on en fait quelque chose de type et donc de stéréotype? Et aussi trouver en fait ce qui... Enfin, moi je sais qu'il y a des choses qui me gênaient d'écrire, j'avais pas spécialement envie de faire quelque chose d'extrêmement... Enfin, j'avais aussi envie de trouver quelque chose de beau dans cette salle. Et je sais qu'il y a ce moment où, dans le roman en tout cas, il y a juste la mère de la narratrice qui attend de pouvoir danser, qui est assise en fait... près du carré de parquet au milieu du carrelage, et qui se dit quand est-ce que je vais pouvoir me lever pour danser sur cette musique, à quel moment. Et jusqu'au moment où, en fait, il va falloir partir. Parce que demain, c'est il y a
beau.
Travail.
Ouais, c'est très beau, il y a une autre scène, justement, comme ça, où vous la décrivez comme si elle attendait quelque chose.
Oui.
Elle regarde comme si elle attendait quelque chose.
Elle attend toujours quelque chose. Non, c'est vrai qu'il y a toujours la question de l'attente dans le regard, et autant dans celui aussi de la narratrice en salle, puisque c'est l'attente de quand est-ce qu'on va pouvoir terminer ce travail, avec des périodes horaires qui sont de midi 16h30, où on attend 16h30 pour pouvoir manger son repas du midi, et on essaie de trouver en fait l'horaire, l'heure, puisqu'il n'y a pas de montre ou d'horloge dans le fast-food. C'est sur les terminales de paiement qu'on peut déclencher l'heure, en appuyant sur... il faut appuyer sur les terminales de paiement pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir partir, puisque bien sûr, il y a ces trucs aussi où si on ne prend pas l'initiative, rien ne se passera, donc on pourrait continuer comme ça jusqu'à longtemps. Mmh. Et c'est vrai que ça a été au début en tout cas une piste, mais que j'ai complètement abandonnée, mais j'ai pensé même à une narratrice qui sortirait jamais en fait du fast-food. En fait, bon, après il y a un moment où ça marche pas, mais c'est vrai que en fait elle ne trouvait pas la sortie. Il y a eu des essais comme ça où elle ne trouvait pas la sortie, où en fait les gens sortaient mais disaient mais comment ils font?
Un peu surnaturel, un peu.
Bah, c'est fantastique en fantastique, fait. Ouais. Il y a des choses qui sont un peu restées du fantastique dans ce roman, mais c'est vrai que effectivement elle sortait pas, les gens sortaient. Et puis, ce qui est resté dans ce roman, finalement, c'est l'histoire d'une fuite d'eau, en fait, dans le couloir du fast-food. Et ça, c'était le fantastique que j'ai un peu atténué, finalement. Mais par contre, il y avait... mais d'où vient cette fuite d'eau qui fait que quand je prends des commandes... Enfin, en tout cas, quand cette narratrice prend des commandes au drive, elle est dans de l'eau, en fait. Et il y a eu des essais comme ça de recherche de la source, mais d'où vient cette eau. Et voilà, il faut savoir que la plupart des machines à boissons de tous les fast-food sont en maintenance. Toujours.
Toi.
On écoute Mylène Farmer et son tube de 1991, Désenchanté, et son nouveau single, À tout jamais, pour annoncer sa tournée, Nevermore, dans toute la France, à partir de juin 2023. Merci Céline Deveau. Votre premier long métrage, Tout le monde aime Jeanne, sera en salle le 7 septembre prochain. Merci.
Oui, merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci Claire Baglin. Votre premier roman en salle est publié aux éditions de Minuit. Merci.
Merci à vous.
Merci à toutes les deux, ouais, de nous avoir enchanté de votre présence, même si les temps sont un peu au désenchantement. Moi, j'ai été enchanté de préparer ces émissions tout l'été avec une équipe tout simplement parfaite. Mathilde Tonfourcade et Anne Toscane-Vudès à la programmation, audacieuse et originale. Des émissions préparées avec la très grande finesse de Théa Corler et Jeanne Dassas, accompagnées par Marie Soisic-Fraboulet et Marianne Chassor. Elles aussi inventives et étonnantes. Des émissions réalisées par les excellents David Jacubovies, Vivian Lecuivre, Nicolas Berger, Lise Combe et Audrey Meyer. Merci également à tous les techniciens. Aujourd'hui, c'était Alex Dang. Je vous retrouve lundi à partir de 12h50 aux côtés d'Olivia Gesbert pour lancer notre book club. Venez nombreux. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. On recevra les sœurs Nothomb, Amélie et Juliette. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant répondre à la question qui vous est posée sur notre compte Instagram @bookclubfc. Quel est votre roman préféré d'Amélie Nothomb? Je rassemblerai toutes les réponses et on les lui soumettra. Et n'oubliez pas notre hashtag bookclubculture sur Twitter et sur Instagram. Cette émission est disponible en podcast et en réécoute sur le site et sur l'application Radio France. So